Changer de regard sur l'autisme, c'est possible en écoutant par exemple Joseph Chovanec, un homme remarquable, qui est mon invité ce matin dans votre service public. Allez, voilà l'histoire édifiante du jour. Figurez-vous que je suis allé acheter des fruits et légumes. Jusque-là, tout va bien, mais à côté des fruits et des légumes, j'ai trouvé des lingettes pour laver les fruits et les légumes. Ça faisait longtemps que je le cherchais, je crois bien l'avoir trouvé, non pas des lingettes pour laver les fruits et les légumes, ça j'avoue que je n'y aurais jamais pensé, mais le produit le plus inutile du mois. Ce sont donc des lingettes pour laver les fruits et les légumes, 3,80€ les 20 feuilles, et qui contiennent quoi ? Eh bien des mouchoirs imbibés d'eau citronnée. Il fallait y penser, non ? Déplions l'astuce de la lingette. Nous produisons des fruits et des légumes pleins de produits chimiques, pesticides et autres, ce qui nous permet ensuite de vendre des lingettes pour enlever les produits chimiques et autres pesticides dont on a consciencieusement enduit chaque fruit et chaque légume. C'est cela, la magie du capitalisme, un produit inutile, voire nuisible, vous oblige à en acheter un autre, puisque le fromage est mauvais, vous reprendrez bien un peu de dessert. Plus précisément encore, le sociologue anglais Colin Campbell explique que la société de consommation ne satisfait plus de besoins depuis longtemps, elle suscite des envies. Ces lingettes, destinées à laver des fruits et des légumes, incarnent cette création perpétuelle d'envie, complètement déconnectée de tout besoin. D'ailleurs, elles sont proposées par la marque Eden, un mot qui désigne le paradis, non plus le paradis du fruit, mais l'au-delà, au-delà du capitalisme, car ces lingettes le montrent. En matière de produits inutiles, nous sommes dans de beaux draps.
France Inter, service public, Guillaume Erner.
Et aujourd'hui, pour parler de l'autisme, je reçois une personne seule. Je suis très heureux de passer l'heure avec lui. Lui, c'est Joseph Chovanec. Bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Alors Joseph, vous m'avez demandé de lire un texte pour vous présenter. Je vais donc le lire. Je vais être extrêmement studieux et appliqué. Et vous avez 33 ans. Et vous dites de vous-même que vous êtes une personne avec autisme ou personne autiste, voyageur passionné de l'Orient et des langues, docteur en philosophie. Vous aimez faire du trafic de livres et de la contrebande d'idées. Et j'ajoute que vous travaillez aujourd'hui pour une radio concurrente, mais comme c'est vous, je décide, vous avez une chronique dans l'émission Les Carnets du Monde sur Europe 1 avec tout d'abord une question de définition. Est-ce que l'autisme, selon vous, c'est un handicap ? Il y a différents types d'autisme. Aujourd'hui, le nombre de personnes diagnostiquées comme autistes est de plus en plus nombreuses. On dit qu'il y a quasiment 10% de personnes diagnostiquées comme autistes dans certains États américains, ce qui montre que le mot ne signifie presque plus rien. Selon vous, comment pourrait-on définir l'autisme, Joseph Chovanec ?
Merci. Alors pour ce qui est du handicap, si vous ne savez pas faire un nœud de cravate, par exemple, dans certaines circonstances sociales, vous serez en situation de handicap. Dans d'autres pays où on ne met jamais la cravate, vous ne serez pas en situation de handicap à cause de cela. Voyez-vous, le handicap se définit toujours par rapport à une situation sociale. Si vous avez, par exemple, des écoles qui n'acceptent pas les enfants, par exemple, autistes, eh bien, ces enfants sont forcément en situation de handicap par rapport à cela. Est-ce que dans l'absolu et hors, j'allais dire, circonstances sociales, l'autisme est un handicap ? J'oserais croire que non. Mais la société étant ce qu'elle est, on peut dire ou on doit dire que l'autisme, oui, hélas, relève encore des handicaps au sens pluriel du terme.
Alors, il y a différentes manières d'être autiste. Vous vous représentez vous-même, d'abord Joseph Chovanec, ensuite une certaine manière d'être autiste, vous venez au micro, on vous entend, on vous écoute aussi. Dans quelle mesure vous considérez que les personnes non autistes sont des gens bizarres ?
Les gens ne notissent pas, ils ont des colères parce qu'ils n'ont pas la bonne marque de vêtements ou parce qu'ils n'ont pas eu la promotion tant attendue depuis un an. Vous voyez, plein de petites choses. Lorsqu'on les regarde, ces personnes non autistes, comme on dit chez nous, qui souffrent de non autisme, on s'amuse un petit peu quand même. Mais que voulez-vous, l'humour finalement, c'est ce qui rassemble les êtres humains au-delà des étiquettes.
Qu'est-ce qu'il y a de plus étrange chez les personnes non autistes? En quoi sont-elles mal insérées dans la société?
Les personnes non autistes souvent sont bien insérées, au contraire, parce que...
Bah, elles sont insérées dans la société des non autistes. Hein.
Voilà, exactement. Mais disons, les personnes non autistes parfois ont des comportements qui nous surprennent. Il y a par exemple quelqu'un qui veut à tout prix faire carrière, il fait tout pendant 20 ans, 30 ans, et puis subitement il ruine sa propre carrière pour un comportement complètement stupide. Bon, voyez, vu d'une perspective un peu différente, hein, c'est un peu le principe de l'être personne. On peut voir le monde d'une autre perspective et de ce décalage tirer à la fois une forme de réflexion et d'agrément aussi.
Dans quelles circonstances considérez-vous que votre manière d'être, Joseph Chovanec, demeure encore refusée par la société qui vous entoure, qui nous entoure ?
Si, par exemple, vous êtes une personne, par exemple, timide ou dysgraphique, qui écrit mal à la main, par exemple, si vous ne savez pas vous habiller en fonction de la circonstance sociale, si vous refusez de faire la bise dans certains cadres, vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de petites choses qui font que vous serez tantôt un paria, tantôt vraiment le clochard. Hein. D'ailleurs, j'en profite pour dire un mot, pourquoi les autorités nationales n'ont jamais pris la peine d'évaluer la prévalence de l'autisme chez les personnes à la rue. Pourtant, les associations relaient cette demande depuis longtemps, hein, voyez-vous.
De manière plus générale, on ne peut pas dire que l'autisme soit pris au sérieux, on ne peut pas dire que l'autisme soit au cœur du discours des autorités, y compris d'ailleurs lorsqu'on parle de maladie. Je crois qu'aux dernières élections présidentielles, la seule candidate à parler de l'autisme était Marine Le Pen. Voilà, on peut évidemment le déplorer, mais c'est comme ça, Joseph Chovanec.
Ben, je vous invite par exemple à taper sur internet des noms d'hommes politiques et regarder ce qu'ils ont dit sur l'handicap ou sur l'autisme en particulier. Vous serez très très surpris.
Qu'est-ce qu'ils disent?
Ben, souvent rien du tout. C'est ça le problème. Comme si le sujet n'existait pas. Je ne veux pas forcément nommer ou démontrer du doigt telle ou telle personne, mais c'est absolument redoutable. Vous pouvez être aujourd'hui un homme ou une femme politique de premier plan, et y compris dans des domaines relativement proches, hein, du handicap comme la santé, et n'avoir tout simplement jamais daigné prendre position ou fait des choses en matière d'handicap. Hein.
Alors vous, vous êtes devenu en quelque sorte, votre insu, un militant de la cause, en tout cas vous aider à faire mieux connaître l'autisme, un type particulier d'autisme, mais au travers de vous, c'est en réalité toute la question autiste, si on peut dire les choses ainsi, que vous popularisez, et on va essayer de comprendre avec vous ce qui a été fait, ce qui reste à faire, et comment on peut voir le monde, puisque vous aimez voyager, donc l'ensemble du monde, comme un autiste. On essaye de le voir tout de suite après avoir écouté Noir Désir, L'Homme Pressé, un disque choisi par Thierry Dupin avec Olivier Bétard à la réalisation.
Qui veut entrer le roi des rois explose, elle dit ma pulvérise l'audience. Et qu'est-ce que vous croyez, c'est ma voix, c'est ma chance. J'adore les émissions à la télévision, pas le temps de regarder, mais c'est moi qui les fais. On crache la nourriture à ses yeux affamés. Vous voyez qu'il demande, nous le savons à vide, de notre pourriture, mieux que de la confiture à des cochons.
Service public sur France Inter, un service public spécial Joseph Chovanec. Joseph Chovanec, vous êtes avec nous toute l'heure. Vous êtes une personne avec autisme ou personne autiste. C'est comme ça que vous voulez que je vous présente. Et moi, je fais ce que vous voulez, Joseph. Joseph, on peut dire que l'autisme demeure encore mal connu. On peut dire aussi que vous souffrez tous les jours d'un regard condescendant, désagréable des personnes. Un exemple de ce qu'est votre quotidien, Joseph ?
Merci Guillaume. Ah bon, mon cas personnel est tout à fait négligeable et pas forcément intéressant. Mais juste une petite histoire. L'autre jour, par exemple, j'arrive pour renouveler mon passeport, un geste vital pour un grand voyageur. Et disons, une fois de plus, j'ai été mal accueilli. La personne au guichet a commencé à me tutoyer d'emblée alors qu'on ne se connaissait pas du tout. Et elle m'a fait comprendre que vu ma façon de parler, mon angoisse, c'est vrai, j'étais angoissé, eh bien, plutôt que de demander un passeport, je devrais plutôt rejoindre l'établissement où je suis hébergé, d'après elle. Bon, peu importe, hein, l'idée, ce n'est pas de pleurnicher sur cette petite histoire, mais c'est de voir, par exemple, toutes les personnes avec autisme, y compris des amis avec autisme nombreux, qui, par exemple, vivent sans eau ni électricité, etc., parce que soit ils n'osent pas contacter le réparateur, soit on leur a raccroché au nez parce qu'ils ne parlaient pas d'une façon attendue. Vous voyez, il y a toutes ces petites choses hein, qui rejoignent l'expérience d'autres personnes handicapées ayant d'autres types d'handicap. On se retrouve tout à fait sur un grand nombre de points.
Voilà, moi c'est différent. C'est hors micro que je vous tutoie. Là, je vais essayer de continuer à vous. Vous voyez, Joseph Chovanec, qu'il y a d'étrange malgré tout dans la manière dont vous parlez de votre quotidien, c'est que vous êtes timide, c'est vous qui dites, vous êtes mal à l'aise socialement, c'est là encore vous qui racontez cela, et cependant vous aimez beaucoup voyager. Comment fait-on pour être en quelque sorte rétif à la nouveauté, à la surprise, et faire ce qui exige de la surprise, le voyage ?
Vous savez, on peut apprendre beaucoup de choses à les petits moments de rêverie. Vous savez, Démosthène, peut-être le plus grand orateur du monde antique, hein, eh bien, il bégayait, il avait le souffle court, il confondait les R et les S, sa voix était faible et inaudible, c'est Plutarque qui le raconte. Eh bien, Démosthène s'était entraîné pendant des années, il mettait des cailloux dans sa bouche, il s'exerçait à parler face à une mer en furie, etc., etc. et il est devenu le plus grand orateur probablement de la Grèce ancienne. Voyez, on peut faire des choses, c'est ça ce qui est extraordinaire en l'être humain, on peut faire des choses pour lesquelles on n'était pas du tout prédestiné, si j'ose dire. Et tout ce qui me donne, de la joie de vivre, c'est de voir tant d'amis avec autisme qui apprennent, qui progressent, qui avaient un profil parfois totalement désespéré quand ils avaient 3, 4, 5 ans. Hein. Et maintenant, vous les voyez qui apprennent parfois beaucoup plus de choses hein, que certaines personnes dites normales. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en sais rien. Mais
est-ce que c'est si différent que ça? Puisque on est tous plus ou moins rétifs à la nouveauté. On a tous des situations de malaise social. Lorsqu'on attend quelqu'un au restaurant et qu'on est tout seul, on se sent un peu bébête. Et lorsqu'on est face à une situation imprévue, là aussi, on se sent un peu bizarre. Est-ce que finalement, ce que vous vivez, Joseph Chovanec, n'est pas ce que nous vivons tous? Alors peut-être de manière plus ou moins démultipliée.
Je crois qu'une personne non autiste, quand elle passe un entretien d'embauche, n'engueulera jamais le patron quand son téléphone portable sonnera, celui du patron, quoi. En lui disant, par exemple, il faut éteindre le portable avant l'entretien. Ça, une personne non autiste, hein, quelle qu'elle soit, saura qu'il ne faudra pas le dire au patron.
Ça veut dire quoi? C'est une maladie sociale, l'autisme? C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de codes qui sont évidents, selon vous, pour les personnes non autistes et qui deviennent étranges, voire impossibles à maîtriser pour les autistes?
Regardez, un bébé non autiste, par exemple, ou un très jeune enfant, sait décoder le visage de la personne qu'il regarde, sa maman, son papa, que sais-je. Sait qu'il faut sourire quand on lui sourit. Hein. Un bébé autiste, hein, en général, ne le fera pas. Donc, il y a vraiment quelque chose hein, au-delà de l'aspect culturel ou purement appris. Hein, ça. Et d'ailleurs, vous savez, l'autisme, c'est pas qu'une différence de fonctionnement. Hein. On peut observer les gens autistes, même visiblement un cerveau un petit peu différent, un système digestif un petit peu différent. Il y a quelques, disons, signes hein, qui vont au-delà juste
système
de l'aspect
digestif.
Interactionnel.
Vous avez un certain nombre de choix alimentaires qui sont des choix alimentaires différents, en tout cas assumés, mais assez étranges. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes d'ailleurs en matière d'alimentation, Joseph.
J'ai la chance d'avoir pu apprendre un peu plus, hein, mais il y a encore une quinzaine d'années, hors de question de m'emmener dans un restaurant. Hein. Et c'est d'être très curieux quand les gens non autistes parlent des restaurants comme l'un des grands plaisirs de la vie, hein. Se faire un restaurant. Hein, c'est... Alors que pour une personne autiste, ça peut être l'enfer.
Et en matière d'aliments, je sais que vous aviez des fixettes, mais ça, je connais beaucoup de gens qui ont des fixettes, mais vous en aviez des spécifique.
Wow, disons les désormais brevetés, non, je plaisante, spaghettis au sucre. Et les vrais experts, ils savent qu'il ne faut mettre du sucre que sur la moitié de l'assiette. Comme ça, vous avez sur une même assiette le plat principal et le dessert.
Ah oui, c'est vrai, c'est plus pratique.
Et c'est économique aussi. Hein. Comme on dit chez nous, l'autisme ou l'handicap en général est économique et écologique. Les personnes aveugles vous diront pareil hein, avec les ampoules, etc.
Et il y a malheureusement aussi dans l'autisme, une dimension économique qui est essentiellement liée aux restrictions, puisque la plupart de ces personnes vivent de l'allocation personnes adultes handicapées. La plupart des personnes autistes ont du mal à trouver du boulot. Pour vous-même, on ne peut pas dire que ce soit simple, ce qui est complètement aberrant lorsqu'on vous voit vivre, Joseph Chovanec. C'est la raison pour laquelle notre reporter Antoine Lee, qui vient d'entrer dans ce studio. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Antoine Nie, vous êtes penché sur le sort des adultes autistes et sur la manière dont ceux-ci pouvaient être pris en charge.
Oui, j'ai rencontré l'association Turbulence. Donc, elle forme ces adultes autistes pour qu'ils deviennent comédiens. Alors, Turbulence, c'est d'abord un endroit incroyable. Ce sont deux chapiteaux colorés situés dans le 17e arrondissement de Paris. Alors, Turbulence a été créé il y a 23 ans. C'est aussi devenu un ESAT, un établissement et service d'aide par le travail. C'est-à-dire que les 41 artistes turbulents vivent de leur art. Ils ont le statut de travailleurs, ces adultes autistes jouent avec un public pour un public non handicapé. Ici, le mot turbulent n'a pas de connotation négative, hein. Au contraire, il fait référence à la culture Wolof au Sénégal. C'est comme ça qu'on appelle les autistes et là-bas, ils sont vénérés parce qu'on dit qu'ils sont dépositaires de l'âme des ancêtres, ce qui explique leur agitation. Alors j'ai pu assister aux répétitions de l'un de leurs spectacles, une pièce où se mêlent poésie, musique et plus surprenant, il y a aussi un trapèze.
rassemblement des troupes.
Oui. Guénol est absent.
Aujourd'hui, mais il sera là demain.
On n'a pas Alexis.
Ouais. Surtout les...
Ah bah, le voilà, Alexis.
Laetitia Rancelli, c'est particulier de travailler avec des autistes.
Moi, des fois, je dis que c'est comme si je bossais avec des divas, en fait. On s'adapte à certaines exigences, à certains malaises. Ou Benjamin, par exemple, donc maintenant j'ai trouvé le truc, parce qu'il est très inquiet des gens qui sont là et des gens qui sont pas là. Donc du coup, maintenant, on fait un temps de parole au début, et c'est lui qui fait le bilan de qui est absent, qui est présent. Et après, il m'en parle plus, en général. Mais sinon, il est capable de répéter le truc 3000 fois, en fait, sans que ça lui pose aucun problème.
Les trapézistes, vous allez monter une fois sur le trapèze, chacun votre tour, vous retrouvez les repères.
C'est pas trop, là, Benjamin ?
Ah non.
Ah, vous avez pas le vertige ?
Bah non.
Mine de rien, Benjamin, il est à 1m80, là. Alors, on n'imagine pas ça possible, qu'on connaît pas l'autisme.
Moi, je mets tout le monde sur le trapèze, donc...
vous n'avez pas de préjugés.
Non. Alexis, dès que c'est noir et dès que t'entends la musique, tu peux y aller.
Union universelle et le souvenir d'une cicatrice, une blessure superficielle, traversée par des gestes de colère.
Philippe Duban, vous êtes le créateur de Turbulence. En 23 ans d'existence, comment a évolué le regard de l'opinion publique, de ceux qui ne sont pas autistes, sur les autistes ?
La scène permet l'extravagance. Elle accueille facilement la folie, la différence, etc. On va même souvent au théâtre pour ça, pour voir l'extraordinaire. La médiation artistique permettait des passerelles où les personnes, finalement, se rendaient compte que ces gens-là, différents, avaient aussi des ressemblances. Le spectateur est interloqué de savoir si cet acteur... Parce qu'on fait beaucoup de mixité hein, avec des artistes qui viennent du milieu artiste, etc. Et de savoir lequel est autiste, lequel ne l'est pas, lequel est... Et que ça permet un petit peu de faire évoluer, de contribuer à l'évolution du regard.
Oh balikoso, ala domino liche, el minawa, el minawa no cheche, el minawa, el minawa no cheche.
C'est joli ça, Vanessa.
Ouais, mais c'est sympa. Ça te plaît?
Ça me plaît beaucoup, ouais. C'est quoi ?
C'est Obarikoso. C'est nous qui nous préparons les chants polyphoniques.
Ça ne procure pas un peu le trac de jouer devant un public ?
Non, pas pour dans le public. J'ai pas le trac du tout, du tout.
Ah bon ?
Non,
j'ai pas. J'aurais le trac, hein, à votre place.
Oh, bah non ! J'ai pas peur du tout.
Mais laissez à vous, ça vous procure quoi, le théâtre ?
Je suis très, très heureuse. Je suis très heureuse de faire ça. J'aime beaucoup.
Ben, merci beaucoup. Bon spectacle.
Merci.
Alors Guillaume-Joseph Chovanec me faisait justement remarquer que Turbulence est une compagnie itinérante, il se déplace. Alors si vous voulez connaître les prochaines dates des spectacles de la troupe, rendez-vous sur le site de Service Public, nous faisons le lien.
Merci beaucoup Antoine pour ce reportage. Votre réaction, Joseph Chovanec ?
Ma réaction est simple, hein, de saluer tous les artistes. Je ne sais jamais quelle est la différence entre autiste, artiste, artiste, autiste, mais saluer tous les artistes hein, du chapiteau Turbulence et puis aussi tous les autres. Hein. Dans l'autisme, on a la chance d'avoir quelques créateurs extraordinaires, hein, voyez-vous. Et donc, ça fait partie des grandes joies de la découverte de la différence, c'est que justement, on rencontre des gens extraordinaires.
Lorsque vous écoutiez le reportage, vous l'écoutiez véritablement, alors que bien souvent, on a des problèmes avec les invités, ils sont dissipés, ils n'écoutent pas tous attentivement le reportage. Est-ce que vous trouvez que les personnes non autistes ont des difficultés de concentration ?
Ce qui m'avait frappé, par exemple, c'est la phrase que la personne, finalement, n'a pas le trac, hein, on n'est pas angoissé. C'est très intéressant, par exemple, une personne aveugle m'avait dit que face à un auditoire, cette personne aveugle ne ressentait pas le trac. Eh bien, pour les gens autistes, ça peut être la même chose. Par contre, ce sont les gens non-autistes hein, qui, en l'occurrence, peuvent être un peu handicapés. Je dois vous avouer, Guillaume, que, par exemple, je n'arrive pas à ressentir le trac face à un auditoire lors d'une conférences, etc. Par contre, je
peut-être l'habitude aussi, Joseph.
Certes, mais je ressens plus le trac en tête-à-tête avec quelqu'un. Parce qu'en tête-à-tête, il faut surveiller les réactions de chacun et je suis beaucoup moins à l'aise hein, en général.
Eh ben, on va continuer à essayer de comprendre l'autisme pour les nuls. C'est d'ailleurs un ouvrage dont on va parler tout de suite après Björk, Bachelorette. Service public sur France Inter, un service public consacré au cas Joseph Chovanec qui est des nôtres ce matin. Nous sommes également en compagnie d'Antoine Lee, notre reporter. Joseph Chovanec, vous souhaitiez présenter un ouvrage, Comprendre l'autisme pour les nuls, un ouvrage traduit de l'américain avec d'ailleurs un certain nombre de problèmes de traduction, pas uniquement liés à la langue.
Merci Guillaume, effectivement pour un certain nombre de gens dans l'autisme c'est une petite victoire après des années de lutte, de militantisme. On a enfin donc le livre L'autisme pour les nuls traduit. Pour tous les problèmes de traduction il faut réclamer auprès de votre serviteur qui est seul responsable, mais on a eu quand même quelques échanges savoureux parce que certains passages ne pouvaient pas être traduits tels quels.
Pour quelle raison?
Par exemple, il y avait un chapitre qui s'appelait « Savoir gérer sa fortune ». Sauf que franchement, combien de personnes autistes en France ont ce type de problème? Ça passerait pour de la provocation.
Et aux États-Unis, pourquoi des personnes autistes peuvent être fortunées? On l'a dit tout à l'heure, il y a certains États américains où, avec beaucoup de personnes diagnostiquées autistes, notamment des personnes qui travaillent par exemple dans la Silicon Valley.
Oui, par exemple, dans Silicon Valley, il y a toutes sortes de gens bizarres, hein, et pas que avec autisme. On peut trouver, par exemple, des personnes schizophrènes qui font une carrière extraordinaire par leur créativité, etc. à la Silicon Valley, ou dans des technologies un peu apparentées, hein. On peut retrouver cela aussi à un autre degré, bien sûr, dans certaines universités où on a misé sur les compétences en maths, par exemple, de certains chercheurs. Alors, on sait qu'ils n'ont aucune compétence sociale, hein. Ils peuvent pas, par exemple, faire cours à des étudiants, mais ils sont excellents en tant que chercheurs et du coup, ils font fortune par leur salaire, hein. Ça existe.
Antoine, vous souhaitiez poser une question.
Oui, Joseph Chovanec, vous avez dit tout à l'heure que les autistes avaient un cerveau, voire un système digestif différent. Qu'en est-il du cœur, ou plus précisément de l'amour? Quelle est la place de l'amour chez les autistes?
Ah, en fait, vous vouliez pas dire le cœur. Hein.
Merci, grande question, hein, fantastique question et qui difficile à résoudre en quelques instants pour autistes ou non-autistes d'ailleurs. Hein. Je pense que chez les personnes autistes, il y a toutes sortes de cas de figure. Hein. Il y a des gens qui vivent en couple avec une autre personne autiste. Il y a des gens qui vivent avec une personne non-autiste, mais très souvent c'est une personne entre guillemets bizarre. Par exemple, porteuse d'un autre handicap ou alors un étranger d'un pays vraiment lointain ou exotique, voyez, quelqu'un qui sort un peu, j'allais dire, des standards et de la norme. Hein. Il y a ensuite ceux qui, disons, souhaiteraient être en couple, mais ne le sont pas à cause de leur marginalité, manque de compétences sociales, que sais-je. Hein. Et puis ensuite, il y a ceux qui ne sont pas en couple et ne souhaitent pas réellement l'être. Donc, il y a vraiment tous les cas de figure. Hein. Mais cela rejoint un peu cette grande thématique, un combat mené par nombre d'associations dans le handicap en général, pour parler justement de ce tabou, hein, amour et handicap, quid.
Le fait d'être avec une personne étrangère, dites-vous Joseph Chovanec, vous finalement, vous n'avez cessé de rechercher l'étrangé et l'étrangeté, vous l'avez recherché au travers de vos voyages, vous l'avez recherché au travers de votre manière de parler en langue, puisque l'une des choses les plus frappantes chez vous, c'est votre maîtrise des langues étrangères.
En tout cas, ce que je sais, nous avons parlé par exemple de certains pays africains, je pense au Sénégal. Je connais un grand nombre de parents français, hein, pas d'origine sénégalaise, qui ont un jeune, un adulte avec autisme, qui partent en vacances systématiquement au Sénégal. Et vous diront, là-bas, on n'est pas jugé. Alors certes, notre fils, notre fille est différent, oui, mais là-bas, tout le monde est plus ou moins bizarre. Ou alors, à un autre niveau, j'étais très surpris de voir nombre de mes amis avec autisme épouser par exemple une japonaise. Alors parfois ce sont des personnes, on jurerait qu'ils allaient rester célibataires toute leur vie. Parfois il y a vraiment, on a des, je veux dire, des surprises de voir comment finalement la richesse du monde fait que quand on est bizarre, on peut réussir à se rattraper à un autre niveau.
On peut réussir à se rattraper. Ce que vous dites est effectivement quelque chose de particulièrement vertigineux dans votre cas, puisque lorsque vous étiez petit, des médecins clairvoyants ont dit à vos parents que vous ne parleriez jamais, et vous avez réussi à faire Sciences Po. Lorsqu'on vous entend en parler, on se dit que vous parlez très très bien, Joseph Chovanec.
Merci. Mais je pense, voyez, tout est possible. Il y a un apprentissage qui est possible. Par exemple, il y a quelques jours est sorti un livre d'une maman, hein, de Anne-Sophie Ferry, au royaume de Tristan, où c'est, je crois, le meilleur texte existant en français au niveau de l'apprentissage du langage chez un enfant autiste qui, d'après les spécialistes, ne devait pas apprendre à parler. Voyez, je pense que les apprentissages sont possibles. Et si dans certains pays, y compris proches de la France géographiquement parlant, quasiment tous les enfants autistes peuvent aller à l'école, ça veut bien dire que c'est jouable, c'est pas une utopie ou une rêverie vaine.
Ça n'est pas une rêverie vaine et néanmoins, l'autisme demeure quelque chose de mystérieux. D'en comprendre l'autisme, ou plus exactement l'autisme pour les nuls, que vous avez contribué à traduire, Joseph Chovanec, on voit que finalement on ne sait pas un grand nombre de choses sur l'autisme. Est-ce qu'il faut parler de personnes atteintes d'autisme? Est-ce qu'il faut parler de troubles liés donc à des troubles du spectre autistique, ou bien encore troubles envahissants du développement? Quelles sont vos opinions à ce sujet?
Ah, merci Guillaume, il y a toutes sortes de questions de jargon, mais je veux dire, bon, le jargon, on va le laisser aux spécialistes qui, je veux dire, travaillent dans cela. L'important ou l'intéressant, ce sont justement les personnes elles-mêmes, celles que l'on peut rencontrer. Voyez, en tant que saltimbanque de l'autisme, depuis 10 ans, voire un tout petit peu plus, je vais de ville en ville pour parler un peu de la différence du handicap invisible. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes incroyables. Parfois, si on faisait un film sur leur vie, les gens ne croiraient jamais qu'il peut y avoir quelqu'un comme ça qui vit, quoi. Et donc, c'est un peu tous ces souvenirs qui sont plus importants que le terme, si on dit, par exemple, trouble du spectre autistique, ou alors trouble envahissant du développement. Oui, ce sont des termes qui changent de temps à autre. C'est pour, je dirais, les spécialistes.
Et lorsqu'on essaye de fixer un certain nombre de règles dans le rapport à l'autisme. Par exemple, on dit que l'autisme devrait être diagnostiqué avant 3 ans. Votre
opinion ? Ça, c'est une certitude. Et même bien avant 3 ans. D'après les textes français officiels, hein, donc là, ce n'est pas, j'allais dire, là, une parole associative, c'est, je dirais, la version officielle. L'autisme devrait être diagnostiqué vers 18 mois. Mois et pas années. Hein. Ceci étant, il est aujourd'hui techniquement possible, dans l'absolu, de faire un diagnostic même avant 18 mois. Hein. Donc, si vous posez un diagnostic tôt, à 18 mois, alors tout devient possible, ou presque. Hein, voyez. Et c'est justement ça ce qui nous manque un petit peu, avec une note particulière sur l'autisme chez les filles. Mal connu, encore plus mal connu, je dirais, du professionnel, j'allais dire lambda, qu'on peut croiser hein, dans le cabinet ou dans la rue. Et ça mène à toutes sortes de maltraitances et de violences hein, à cet égard.
Oui, parce qu'on considère que l'autisme est diagnostiqué 4 fois plus souvent chez les garçons que chez les filles, Joseph Chovanec.
Oui, vous avez prononcé le mot « et diagnostiqué », c'est ça le problème. Rien ne dit qu'il y a effectivement 4 fois plus de garçons que de filles autistes. Je crois, et on est nombreux à avoir ce sentiment, que la plupart des filles autistes passent sous le radar, hein, pour le parler comme ça. Et ensuite, à l'âge adulte, dans toutes les associations, on est confronté à des histoires horribles, hein, par exemple d'abus, de maltraitance, de violence. Permettez-moi, Guillaume, de vous poser une question. Je suis très surpris. On nous parle régulièrement de différents programmes sur la violence contre les femmes, et c'est tout à fait noble. Mais je crois qu'on occulte totalement la dimension quid des violences à l'encontre des femmes, par exemple porteuses d'un handicap ou autistes, vu que c'est le sujet du moment.
Effectivement, mais on se dit, en vous écoutant, comment faire pour diagnostiquer l'autisme avant 3 ans ? Quels sont les diagnostics, les tests qui permettent de savoir si une personne est atteinte, alors j'allais dire de troubles du spectre autistique, vous voyez, je commence à jargonner, mais en tout cas à souffrir donc d'un certain nombre de caractéristiques qui la rendent différente des non-autistes.
Oui, il y a un certain nombre de tests, mais je veux dire, avant les tests très formels chez un psychiatre spécialisé, etc., il y a, je dirais, une phase où on peut émettre un petit doute. Par exemple, je ne sais pas, vous êtes un professionnel de crèche, ou vous êtes parent, et vous voyez tel ou tel enfant, et vous vous dites, ça pourrait bien, ça pourrait cadrer. Par exemple, on peut se faire ce type de remarque, alors c'est pas un diagnostic, mais ça peut amener vers un diagnostic, et d'où la nécessité que par exemple le grand public ou alors les professionnels de la petite enfance en général puissent avoir ce petit moment de déclic. Ça pourrait être le cas. Par exemple, c'est un enfant, quand je lui donne une petite voiture, au lieu de jouer comme le ferait un petit enfant, je dirais standard, hein, avec la petite voiture, il la met à l'envers et fait tourner les roues. Ou alors il aligne les petites voitures l'une à côté de l'autre au lieu de la faire rouler. Bon, je dis n'importe quoi. Mais avec un petit peu de feeling, alors l'idée c'est pas de devenir un grand professionnel, mais il suffit d'un petit sentiment des choses pour se dire, on devrait essayer de faire un diagnostic plus sérieux pour tel ou tel enfant.
Le regard également, on parle souvent du regard
pour les... Tout à fait. Hein. Alors, l'un des trucs géniaux à la radio, c'est qu'on ne voit pas le regard. Hein, mais le regard chez les gens autistes est souvent un gros problème. Hein. Les gens non autistes savent exactement où il faut regarder. En fait, les gens non autistes, le plus souvent, regardent par exemple à un point entre les yeux. Ils ne regardent pas réellement les yeux hein, ou dans les yeux, mais ils regardent les plis de la peau autour de l'œil. Et à partir de ça, ils devinent votre émotion, si vous êtes en colère ou si vous êtes content, que sais-je. Les enfantistes ne le font pas, hein. Et donc ça crée un certain nombre de malentendus qui peuvent déraper, hein, d'ailleurs assez vite.
On continue à évoquer l'autisme et la nécessaire prise de conscience par rapport à ces personnes. On continue à en parler tout de suite après Claire Diterzy, Infiniment Petit. Service public sur France Inter en compagnie de Joseph Chovanec. Joseph, vous souhaitez que l'on vous présente comme une personne avec autisme ou personne autiste, voyageur passionné de l'Orient et des langues, docteur en philosophie. Vous aimez faire du trafic de livres et de la contrebande d'idées. Nous avons parlé des diagnostics de l'autisme, nous avons parlé des manières donc d'appréhender cette singularité. J'aimerais maintenant que nous parlions, Joseph, des manières dont on pourrait mieux insérer les personnes autistes. Vous avez dit qu'il y avait beaucoup de boulot dans ce domaine-là. Quelles sont d'abord les mesures qui vous paraissent urgentes ou importantes dans ce domaine ?
Merci Guillaume. Je crois que dans l'ordre des urgences, il y a beaucoup à dire. Mais parmi, je crois, une chose qui me tient beaucoup à cœur et qui me horrifie quand je le vois, ce sont les maltraitances qui se passent dans un certain nombre d'établissements. Ce que typiquement, que veut dire la vie en général pour un grand nombre de personnes autistes ou porteuses de certains autres handicaps ? Ben, c'est d'être dans un établissement au fin fond des bois, parfois dans des conditions telles, si je vous montrais une photo, vous diriez c'est Fleury Mérogis, la prison, quoi. Il y a des situations comme cela. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un système ou un numéro ou que sais-je, une adresse mail qui permettrait de faire intervenir quelqu'un, par exemple des autorités, pour faire changer certaines choses, hein. Les pires maltraitants sont souvent celles dont on ne parle pas et qui se déroulent loin des yeux et loin du cœur, hein, comme on dit. Donc il y a ce point-là, ça me tient beaucoup à cœur. Et il y a un deuxième point, c'est comment veiller, par exemple, à la formation des professionnels. Ça fait un certain temps qu'on essaye d'en parler dans le milieu associatif, mais comment est-il possible qu'aujourd'hui on puisse devenir médecin, même psychiatre, donc spécialiste théoriquement, et n'avoir pas entendu parler de l'autisme pendant toutes les années passées à l'université? Il ne s'agit pas, je dirais, de taper ou de montrer du doigt telle ou telle catégorie de professionnels. Non, au contraire, il s'agit de travailler avec eux parce que d'une certaine façon, le jeune psychiatre qui arrive au cabinet et voit pour la première fois une personne autiste, ben, c'est lui qui finalement est aussi un peu victime de la chose. Donc, vous voyez, il faut avoir une approche un peu positive. Et comment se fait-il qu'on n'ait pas réussi à introduire dans le cursus médical, par exemple, ce sujet-là, quoi, dans nombre de cas, il y a quelques exceptions naturellement, hein. Après, il y a par exemple un autre sujet, pourquoi les autorités nationales ont été tellement frileuses, voire totalement inexistantes sur la question du devenir des adultes, hein. Vous voyez, on parlait d'argent par exemple, ben de l'argent, il y en a, mais on le dépense en médicaments ou alors en institutionnalisant les gens. Vous voyez, c'est pas un bon usage de l'argent public, hein.
Alors justement, puisque on parle d'argent, et de traitements. Il faut voir que beaucoup de traitements pour les personnes autistes sont des traitements que vous considérez comme étant violents, dégradants, inutiles. Et il y a, selon vous, un grand nombre de traitements qui sont en réalité néfastes, Joseph Chovanec.
Quand on va se dire les choses tout bêtement, hein, si vous prenez un médicament qui vous fait dormir 23h30 par jour, eh bien vos compétences sociales passeront à l'arrière-plan, hein. Voilà. Donc c'est un exemple, il y en aurait d'autres, hein. En fait, je crois avec les médicaments dans l'autisme, c'est comme pour la fessée, quoi. C'est un signe d'échec, c'est-à-dire qu'on a raté quelque chose à un certain niveau. L'expérience montre qu'il est tout à fait possible, hein, de réduire, voire de supprimer dans la plupart des cas, toute forme de médicament pour que l'enfant, le jeune, puisse au contraire apprendre. Hein. Quand vous connaissez les choses, vous pouvez fonctionner beaucoup mieux. Hein.
Alors c'est très difficile évidemment de parler dans le cas général, puisque on l'a dit, il faut le répéter, il y a différentes formes d'autisme, Joseph Chovanec, mais quelles sont les méthodes qui, selon vous, ont véritablement fait leur preuve? Bon, on parle d'abord d'insertion, par exemple, dès le plus jeune âge, puisque le fait d'être avec des enfants autistes pour des enfants qui ne sont pas autistes est une richesse pour ces deux types d'enfants.
Voilà, vous savez, on peut parfois, quand je suis dans les écoles avec des enfants, je dirais valides en général, eh bien je leur dis la chose suivante. Figurez-vous que, par exemple, il y a dans votre classe un camarade porteur d'autisme ou d'un autre handicap. Ben peut-être que vous ne jouez pas avec et on finit par l'exclure. Bon, vous dites bof, tant pis, hein, et ça n'a jamais été un ami proche. Mais dans quelques années, en maths, ça deviendra compliqué pour vous. Et votre petit camarade, ancien petit camarade autiste, ben il ne sera plus là pour vous aider, quoi.
Qu'est-ce que vous avez l'impression de faire, j'ai parlé de votre compétence linguistique, de manière plus aisée que les personnes qui vous entourent, Joseph Chovanec?
Ben, vous savez, d'une certaine façon, pardon de dire cette phrase, elle est très dure, mais j'ai eu de la chance d'être un peu exclu, hein. Donc j'ai été poussé à aller voir ailleurs, à me promener dans tous les sens du terme, de découvrir des choses. Finalement, les personnes qui ont un parcours, une trajectoire linéaire n'ont pas beaucoup de chance, hein. Vous faites des études dans un domaine, puis vous entamez tout de suite une carrière dans le domaine en question. Bon, c'est très chouette. Mais c'est un peu pauvre, je dirais, en termes d'épanouissement humain. Moi, j'ai eu beaucoup d'années d'errance à tous les niveaux. Et je pense à tout j'y ai pris goût.
Vous n'avez que 33 ans.
Mais d'une certaine façon, vous voyez, le fait d'être un peu à la marge, etc., ça permet des découvertes, ne serait-ce que d'autres personnes un peu à la marge.
Lorsque vous avez fait votre doctorat en philosophie, puisque vous êtes docteur en philosophie, vous avez également fait Sciences Po, Joseph Chovanec, vous vous êtes intéressé à des sujets qui relevaient de la théologie, du mysticisme. Vous connaissez très bien l'hébreu, vous êtes capable de parler beaucoup d'autres langues. C'est également le signe que, encore une fois, ce pronostic qui a été posé sur vous lorsque vous étiez petit, que vous n'arriveriez pas à parler, a été déjoué. Cela signifie aussi que vous êtes capable de vous intéresser à un grand nombre de sujets.
Les personnes autistes, les personnes bizarres en général peuvent s'intéresser, oui, à un grand nombre de sujets. D'ailleurs, vous savez, parfois la vie des gens normaux, hein, nous paraît un peu vraiment triste, encore une fois. Par exemple, une personne dite normale pourra passer ses soirées à, au hasard, regarder la télé, pardon. Ça peut être très bien, mais en termes d'épanouissement, peut-être qu'il y a d'autres activités.
Qu'est-ce que
aussi.
Vous faites, vous, pendant vos soirées?
Ah bah hélas, j'ai beaucoup de boulot, mais par exemple, le petit rêve, hein, c'est de bouquiner, de bouquer sur des choses absurdes, bizarres. Je pourrais passer la nuit, par exemple, je l'ai déjà fait récemment, pour savoir comment, lors de la construction du mur de Berlin, on a coupé les lignes du métro à Berlin. Et ça, c'est typiquement un sujet, hein, qui passionne des gens un peu bizarres ou fêlés. C'est génial.
Couper les lignes du métro, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait une partie qui était à
ouais,
l'ouest,
Berlin,
une ouest vers l'est.
Et comment ils ont fait techniquement? Voilà, donc ça c'est un sujet absurde, passionnant. Si je commence le soir...
En quoi est-ce un sujet compliqué? Parce que vous pouvez faire beaucoup plus compliqué. Là, il suffit de prendre la ligne de démarcation qui séparait Berlin-Est de Berlin-Ouest pour couper ces lignes.
Mais en fait, c'était pas aussi simple que ça. Enfin, peu importe les détails, les auditeurs.
C'est dommage d'aller frustrer les auditeurs. Parce que
oui, mais ça, c'est typiquement le sujet. Si je commence à lire ça un soir, hein, j'y passe toute la nuit. Hein, voilà. Et donc, ça, je pense, ce sont des petites richesses, des petites pépites hein, qui peuvent échapper à des gens dits normaux. Hein. On peut bien sûr prendre des sujets en apparence plus compliqués, mais en fait, je pense, il n'y a pas de sujet compliqué en soi. Hein. Si vous êtes passionné par, je ne sais pas, les aoristes en sanskrit classique, hein, ben ça deviendra facile pour vous. Vous allez vous y consacrer pleinement. Donc, vous savez, entre, par exemple, quelqu'un qui mémorise les décimales du nombre pi et quelqu'un qui mémorise les scores de matchs de football, hein, voyez, c'est le même type d'activité, sauf que socialement, la valorisation est différente.
La valorisation est différente. Effectivement, on voit en quelque sorte en quoi c'est compliqué de mémoriser les décimales du nombre pi, en quoi c'est compliqué socialement, c'est compliqué aussi du point de vue de la mémorisation. Mais aujourd'hui, vous êtes l'exemple incarné et de la richesse évidente de votre différence.
Bah, disons, exemple, on va éviter peut-être ce terme. Je suis même un contre-exemple à nombre d'égards. J'habite toujours chez mes parents. Je ne suis jamais allé chez le coiffeur. Les lacets de mes chaussures ne sont pas faits, etc. Mais par contre, j'ai la chance.
Bah, c'est normal puisque vous enlevez vos chaussures, vous êtes comme moi.
Mais j'ai la chance de rencontrer des gens qui, progressent. Hein. Et vraiment, je suis absolument ravi de rencontrer des membres de, je dirais, cette jeune génération de personnes autistes qui ont pu, certains avec difficulté, mais qui ont pu avoir un certain nombre de chances d'apprendre, de découvrir le monde. Et je suis absolument stupéfait par ces changements-là. Hein.
Vous militez beaucoup, vous n'arrêtez pas de voyager, alors parce que vous aimez les voyages, mais aussi parce que vous êtes invité un peu partout pour témoigner sur la condition des personnes autistes. Est-ce que vous avez l'impression que les mentalités évoluent, Joseph Chovanec?
D'un côté, oui, c'est évident. Il y a une dizaine d'années, quand on faisait une réunion sur l'autisme, on était deux, hein. Trois parfois, quand ça allait bien. Aujourd'hui, on peut par exemple parler de l'autisme dans les lycées, dans les collèges. D'ailleurs, on est très bien accueillis. C'est très intéressant. Parfois, vous avez des lycées turbulents qui n'écoutent pas du tout les cours de maths ou d'etc. Mais quand vous venez parler d'handicap, là, ils écoutent pendant des heures. Aussi, de plus en plus, il y a des entreprises qui s'intéressent. Donc oui, il y a de l'espoir.
Merci, on terminera ainsi Joseph Chovanec. Merci beaucoup d'être venu parler, témoigner de la condition des personnes autistes. Et je rappelle donc le titre de cet ouvrage que vous avez contribué à traduire, « Comprendre l'autisme pour les nuls », un livre donc de Stephen Shore que vous avez traduit. À très bientôt Joseph Chovanec.
Merci Guillaume, à très bientôt en autistant.
Et tout de suite après le flash, vous retrouverez Nagui et sa bande originale.